Radio Okapi. Le journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambia.
Des images des dizaines de corps de jeunes tués par balles et empilés dans une maison inachevée à Goma circulent sur la toile et un tweet attribué au ministre congolais de la communication et des médias parle d'une dizaine de jeunes inoffensifs exécutés en plein jour dans l'après-midi de samedi 22 février au quartier Katoï. Plus de détails dans ce journal. De l'eau potable grâce au forage des puits d'eau dans le Sankoro. Plus de 30 000 habitants de Lubefu centre, de Pembe et de Shenga sont concernés par ce projet initié par l'Est Belle Belge, maillon humanitaire. L'invité de Radio Okapi ce matin s'appelle Joseph Nkinzo. Il a présidé la rencontre des chefs traditionnels, des notables et des leaders communautaires à propos de la paix en RDC. Ces chefs coutumiers sont issus des quatre zones linguistiques de la RDC. Bonjour à tous. La ville de Goma est en émoi depuis hier dimanche. La toile s'enflamme en effet avec des images de dizaines de corps de jeunes tués par balles et empilés dans une maison inachevée. Pendant ce temps, un tweet attribué au ministre congolais de la communication et des médias parle d'une dizaine de jeunes inoffensifs exécutés en plein jour dans l'après-midi de samedi 22 février au quartier Katoï dans la ville de Goma. Un reportage de Chris Mukand rendu par Jude Mister Bilanda.
Cela ressemble à des exécutions sommaires dans les environs immédiats du camp militaire Katindo. La plupart des victimes sont notoirement connues des habitants du quartier. Elles auraient été regroupées dans ces lieux et exécutées sans sommation. Des témoignages par des audios en rajoutent à la confusion. L'un d'eux parle de jeunes trouvés par les rebelles du M23 dans un repère des consommations de chanvre et des boissons fortement alcoolisées, ce qui leur a valu cette fusillade après dénonciation. D'autres, en revanche, avancent l'hypothèse d'une tentative des recrutements forcés et qui se seraient heurtés à une résistance. Toujours est-il que les habitants du quartier Katoï, en commune de Karisimbi, vivent la terreur. Les quartiers auraient été quadrillés toute la nuit par les rebelles. L'on parle même d'incursion dans le domicile d'où certains jeunes auraient été tirés et ramenés sur les terrains d'abattage. Au passage, des jeunes filles auraient été abusées sexuellement. C'est ce dimanche matin que les corps sont récupérés par les rebelles à bord des véhicules, apprenons-nous de nos sources.
Toujours au nord Kivu, de nombreuses familles des militaires et des policiers qui ont trouvé refuge dans des écoles font face à des bouclages réguliers des éléments du 1-23 ces derniers jours. Estimées à environ 5000 personnes, elles sont entassées par centaines ou dizaines de familles dans différentes écoles, parmi eux des blessés et des invalides. Ces ménages déclarent n'avoir nulle part où aller car la plupart ne sont pas originaires du nord Kivu. Un reportage de Sifa Maguru, rendu par Stanislas Diumi.
D'après plusieurs sources locales, ces familles seraient suspectées par le rebelle d'héberger ou de collaborer avec des bandits armés ou des militaires qui ne se seraient pas rendus. Ce qui justifierait des bouclages et mesures contraignantes prises à leur encontre par le rebelle. C'est le cas de l'incident enregistré à l'Institut Rutoboko, non loin du camp militaire de Katindo. Et quelques personnes présumées militaires ou bandits armés auraient été interpellées, affirment nos sources. D'autre part, ce ménage qui occupe plusieurs écoles, notamment dans la commune de Karisimbi, sont sommés depuis la rentrée scolaire à évacuer les salles de classe pour laisser place à la reprise de cours. D'après nos sources, le camp militaire de Katindo est jusqu'ici contrôlé par le rebelle qui y organise des réunions. Nos sources affirment également que quelques blessés militaires de FARDC seraient toujours internés au sein de l'hôpital militaire de Katindo, ainsi que quelques personnes soignantes.
Dans l'ouest du pays, au moins 700 ménages de déplacés de Kwamout vivant dans les zones de santé de Bagata et de Kikongo au Kwilu, ainsi que des retournés seront bientôt assistés par l'ONG ADES en articles ménagers essentiels et autres, notamment la construction des abris. C'est dans le cadre du projet Réponse intégrée en faveur des populations vulnérables affectées par la crise dans la province du Kwilu. Ce projet a été lancé vendredi par le gouverneur de province intérimaire Grégoire Malwa Bigilira, en présence des membres du gouvernement, des autorités sécuritaires et sanitaires de la division provinciale de la santé du Kwilu. Le point avec Irène Mbomaluzolo.
Prévu pour une durée de 12 mois, ce projet financé par les fonds humanitaires en RDC cible 700 ménages de déplacés ayant fui les hostilités de la milice Mobondo Akwamuntu et vivant actuellement dans les zones de santé de Bagata et de Kikongo en province du Kwilu. La mise en œuvre du projet prévoit plusieurs interventions qui seront réalisées par l'ONG ADES. L'objectif est de répondre efficacement aux besoins prioritaires des populations touchées par la crise humanitaire afin qu'elles puissent retrouver leur dignité humaine. Flavien Joanga est le chef de projet.
Nous sommes venus donner la réponse à la population déplacée qui dort dans des écoles, dans des mosquées. Des tanks humanitaires, nous avons voulu redonner de la dignité à tous ceux qui passent la nuit à la Belle Étoile à travers la construction de logements, à travers la distribution des kits d'hygiène intime, à travers l'appui à articles ménagers essentiels.
Le ministre provincial Grégoire Maloua Bigiliga, qui a lancé au nom du gouverneur des provinces ce projet, a plaidé pour que la zone de santé de Bandundu soit aussi prise en compte car elle compte également plusieurs déplacés. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Nous risquons tous de mourir sur ce tronçon routier si les travaux de cantonnage manuel ne sont pas arrêtés. C'est le cri d'alarme des cantonniers de l'entreprise de construction des travaux hydrauliques qui travaillent sur la route Eringeti-Kainama. Ils craignent pour leur vie en raison de la présence des engins explosifs de guerre posés par des présumés rebelles des ADF, ce qui pourrait stopper les travaux de réhabilitation de cet axe routier. Ils plaident pour une opération de déminage et de sécurisation de ce tronçon routier avant la poursuite des travaux. Pharaon Simon Kawa Tibasima, superviseur des travaux de cantonnage manuel de cette entreprise, s'exprime au téléphone de Marc Marofimbo.
Tout ce que nous demandons d'abord, c'est de renforcer la sécurité sur ce tronçon routier, car nous, cantonniers, nous n'avons que cet axe routier où nous travaillons. Et si maintenant nous sommes devenus sujets de menaces par les engins explosifs et des bombes piégées, on va nous terminer, puisque nous n'avons pas autre moyen de faire étant donné que nous n'avons que la route comme terrain de travail. Et si notre espace de travail est piégé de bombes, nous risquons de mourir tous et arrêter ainsi avec les travaux de cantonnage manuel. Nous avons besoin que les experts en déminage nous aident, nous assistent en nettoyant cet axe routier où nous passons toutes nos journées de travail de 8h à 16h, nous y sommes. Car même là où notre collègue cantonnier a marché sur cette bombe, c'est exactement là où les rebelles avaient incendié encore deux motos de nos frères qui fréquentent l'axe Eringeti-Kainama. Tout ce que nous demandons au service de sécurité, c'est de boucher tous les passages qu'empruntent ces rebelles, puisqu'il peut y avoir encore d'autres engins explosifs qu'ils ont piégés pour détruire une autre personne.
La Force grise pour la démocratie et le progrès social, FGDPS, lance un appel au peuple à la prise de conscience du réel danger qui guette la RDC et qui menace son existence comme nation. Dans une déclaration rendue publique dimanche à Kinshasa, cette structure rattachée à l'UDPS rappelle aux Congolais le devoir patriotique de se tenir debout comme un seul homme dans la lutte inlassable contre les velléités expansionnistes du Rwanda sous couvert de l'AFC M23. D'autres détails avec vous. Jean-Désiré Kanyama.
Dans cette déclaration, la Force grise pour la démocratie et le progrès social dit suivre avec attention soutenue l'évolution de la situation politico-sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC, en proie depuis près de 30 ans aux violations massives de l'intégrité territoriale par les Rwandais, sous couvert de ces milices AFC M23, au génocide de sa population et aux évacuations massives des habitants de leur milieu naturel. Et face à cette menace existentielle, la Force grise pour la démocratie et les progrès sociaux réitère son appel à la mobilisation générale de toute la jeunesse congolaise à s'enrôler massivement dans les FRDC. Et d'autre part, au peuple congolais de soutenir totalement les chefs de l'État et commandants suprêmes des FRDC, les forces de sécurité ainsi que les patriotes Wazalendo, afin de libérer toutes les localités et villes aujourd'hui occupées par les troupes rwandaises et ses supplétifs de l'AFC M23. Alors que tous les crimes de guerre et contre l'humanité sont avérés et documentés par diverses missions, la FGDPS salue la résolution adoptée vendredi dernier contre le Rwanda et le mouvement rebelle du M23. Cependant, elle dit attendre avec impatience la mise en œuvre effective des recommandations, notamment le retrait des troupes rwandaises des zones occupées, y compris Goma et Bukavu.
Dans la province du Sankoro, plus de 30 000 habitants de Lubefu Centre, des localités de Pembe et de Shenga dans le secteur de Ndjovu vont bientôt accéder à l'eau potable non loin de leurs habitations. C'est grâce à la construction de 6 forages des puits d'eau. C'est un projet initié en partenariat avec l'ASBL belge Maillon Humanitaire, soutenu par le Centre Hospitalier Régional des Houille et Wallonie-Bruxelles International. Explication avec Esther Ndalafina.
6 véhicules transportant les matériels de forage des puits d'eau sont arrivés ce vendredi à Lubefu Centre. Aussitôt arrivés, les travaux de construction des forages ont commencé dans Lubefu Centre. D'après le député national Hippolyte Ndjongabo, qui a mené le plaidoyer auprès des donateurs, les forages de puits d'eau seront creusés à Lubefu Centre, à Pembe et à Shenga dans le secteur de Ndjovu. Ce geste a pour but de lutter contre les maladies hydriques dans la région.
Malgré l'existence de plusieurs rivières à Lubefu, l'eau consommée par la population n'est pas bonne. La consommation de cette eau conduit au développement de toute une série de pathologies, dont la fièvre typhoïde, la dysenterie amébienne et de nombreuses verminoses intestinales. Ce projet permettra aussi de réduire la corvée d'eau aux femmes de Lubefu appelées à parcourir de longues distances pour puiser de l'eau.
Un habitant de Lubefu remercie les initiateurs de ce projet.
Aujourd'hui, nous allons commencer à boire contre une eau qui ne renferme pas de microbes.
Signalons que l'arrivée de ces 6 camions a créé un engouement et une joie immense dans la population. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Congo central, l'école primaire Bayamboudila, située dans la ville de Matadi, vers la descente Mpozo, derrière l'entrepôt de l'Afritrans, n'est plus opérationnelle. La pluie accompagnée d'un vent violent qui s'est abattu sur la ville le dimanche 16 février dernier a emporté les toitures des 8 de 10 salles de classe et a causé plusieurs autres dégâts matériels. La directrice de la province éducationnelle Congo central 1, qui a rencontré le maire de Matadi samedi, a affirmé qu'à cause de ce sinistre, les activités scolaires sont momentanément à l'arrêt. Mnana Plurish Mambo.
Construit sur un site accidenté, les bâtiments de l'école primaire Bayamboudila n'a pas résisté à la forte pluie accompagnée d'un vent violent qui s'est abattu sur Matadi le dimanche 16 février dernier. 8 salles de classe écroulées, des bancs fracassés, plusieurs manuels didactiques et documents administratifs endommagés par les eaux de la pluie. Conséquence, les activités scolaires sont suspendues, comme l'affirme Madame le prophète du Congo central 1, Marie-Salomé Boroto.
Et pour cette école, les enfants ils ne suivent pas les cours. Hein. C'est une école sinistrée. Et puis Bayamoudila, qui avait 10 salles de classe, aujourd'hui, il ne reste que 2 salles de classe, avec un effectif de 350 élèves. Étant donné que notre cible, c'est l'enfant, nous ne pouvions pas garder silence, parce que le problème de l'enfant, ça touche tout le monde.
D'après cette dernière, le maire de Matadi, auprès de qui elle est allée plaider en faveur de l'EP Bayamboudila, a illico presto mis un ingénieur civil à la disposition de l'école pour sa réhabilitation urgente. Marie-Salomé Boroto, prophète du Congo central 1, dit avoir envoyé plusieurs correspondances aux autorités tant nationales que provinciales au sujet de cette école, mais jusqu'à présent, elle n'a eu aucune suite. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Province du Bas-Ouélé, parlons santé. La Mpox observée au début du mois de janvier dernier dans le territoire d'Ango est quasiment maîtrisée. C'est ce qu'affirme le médecin directeur de l'hôpital général de référence de la zone de santé de cette entité. Hormis un cas de décès enregistré dans la localité des Dakwa, aucun autre cas n'est rapporté jusqu'à ce jour, affirme Dr Prince Kwandi. Selon lui, ceci est la conséquence d'une sensibilisation permanente de la communauté contre cette maladie. Dr Prince Kwandi est joint au téléphone par Jacques Moukonkole.
On a pris des mesures préventives, autant sensibiliser. Il y a les infirmiers titulaires des centres de santé qui ont été briefés par rapport à la prévention des monkeypox. À son tour, il est parti sensibiliser les relais communautaires comment prévenir le monkeypox. À part les derniers cas qu'on a reçus à Dakwa, malheureusement c'est un bêta, il y a un décès. Mais jusque-là, il n'y a pas encore de signes ou symptômes qui se manifestent. Nous continuons à veiller chaque jour, même à la radio, chaque fois qu'il y a la réunion du comité de gestion au niveau des aires de santé, nous sensibilisons toujours via les écoles d'abord, églises et aussi à travers les mégaphones que les relais communautaires sensibilisent parce que c'est un fléau qui ronge le monde. Tout cas des éruptions cutanées constitue un cas d'alerte pour nous.
Actualité internationale.
Le ministre soudanais des Affaires étrangères a déclaré hier que son pays n'accepterait pas la reconnaissance d'un gouvernement parallèle lors d'une conférence de presse avec son homologue égyptien au Caire. La déclaration de Ali Youssef intervient au lendemain de la signature à Nairobi au Kenya d'une charte entre les forces de soutien rapide en guerre contre l'armée depuis avril 2023 et une coalition des groupes politiques et armés pour former une administration rivale dans les zones tenues par les paramilitaires.
L'invité.
Les chefs traditionnels, les notables et les leaders des communautés locales sont actuellement appelés à jouer un rôle crucial dans la préservation de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Ils doivent notamment décourager toute forme de division et de discours de haine, tout en œuvrant pour le retour de la paix en RDC. Cet appel a été lancé le samedi 22 février à Kinshasa par une organisation regroupant les chefs coutumiers issus des quatre zones linguistiques de la RDC. Ces derniers ont publié une déclaration pour la paix, la refondation et la réconciliation nationale. Joseph Nkinzo, président de ce congrès et l'invité de ce journal, il en parle dans cette interview accordée à Sifa Maguro.
Bonjour messieurs.
Bonjour madame la journaliste. Je viens d'être désigné par les autorités traditionnelles comme président et porte-parole du Congrès du peuple pour la paix qui porte une grande initiative, l'initiative de paix, de cohésion nationale. L'objectif, c'est de pouvoir fournir des informations et d'éléments importants au président de la République, à l'EAC, East Africa Community, et à la SADC et toute autre partie prenante à ce conflit actuel portant les désirata du peuple qui estime que le sang a beaucoup coulé dans le pays et il est temps d'appeler un dialogue national où pourraient être représentées toutes les forces sociales et politiques du pays, inclus les groupes armés. Je vois les M23, les Wazalendo et tous ces groupes pour que nous puissions organiser un bon dialogue national inclusif qui pourrait nous aider à refonder l'État et reconstruire le pays pour l'établissement d'une paix durable.
Cette paix durable étant recherchée par tous, vous savez qu'il y a plusieurs dynamiques qui travaillent déjà. Il y a les chefs religieux, il y a des démarches au niveau diplomatique, il y a plusieurs efforts qui sont mis ensemble pour que la paix soit rétablie. Maintenant, les chefs traditionnels et les communautés locales, quel sera leur apport, leur contribution dans cette démarche?
Tout le monde vient d'une communauté tribale. Tout le monde a un chef coutumier dans ses origines. L'article 207 confère aux autorités traditionnelles le rôle de veille sur l'unité nationale et la cohésion sociale. Ils doivent veiller sur cela. On estime qu'il est temps qu'ils jouent leur rôle. Ce n'est plus le moment d'aller casser des ambassades. Ce n'est plus le moment de Boma Mswahili, comme on le voit actuellement à Kinshasa. Il suffit que vous parliez Swahili dans les taxis, dans des endroits publics. Ça crée tout un problème. On a vu des ambassades brûlées, cassées. On voit ce qui se passe à l'Est, le sang qui coule. Quand on voit à Goma où on a perdu plus de 6 000 âmes, et nous pensons qu'il est temps que les armes se taisent, que le peuple congolais s'asseye autour d'une table pour échanger, pour discuter et rentrer dans la profondeur de cette crise qui a perduré depuis une trentaine d'années maintenant.
Vous venez d'évoquer là un point très important. Vous, en tant que dynamique nationale des autorités traditionnelles et leaders communautaires, quelle est votre réaction par rapport à ces appels, ces discours de haine qui s'observent actuellement, ces appels à la division entre les communautés qu'on dénonce depuis un temps ici à Kinshasa? Qu'est-ce que vous dites aux communautés respectives?
Nous décourageons avec la plus grande fermeté ce qui se passe place à Kinshasa et dans quelques provinces. Ici, je cite le Katanga, le Kasai et ici à Kinshasa, où on voit une certaine barbarie se développer, attaquant les gens sur base de leur expression linguistique, ce qui n'est pas du tout admissible. Nous estimons que le Kinois doit continuer à comprendre que la capitale n'appartient pas à une seule tribu, la capitale n'appartient pas à une seule couleur, tant politique, culturelle, linguistique. La capitale doit refléter l'unité nationale. Et c'est inconcevable qu'on puisse brûler quelqu'un, lapider quelqu'un, puisqu'il a parlé une langue différente de la sienne, et particulièrement le Swahili. S'il y a eu une lutte acharnée depuis plus de 30 ans pour que nous puissions garder l'intégrité territoriale et l'unité nationale, ça c'est une lutte menée par tous les Congolais, mais d'abord, au prix du sang, les peuples de l'Est l'ont payé. Pourquoi encore une fois se retrouver martyrisé ici à Kinshasa, qui devrait être le rempart de tous? Nous avons adressé un message fort à la plus haute hiérarchie du pays, sollicitant qu'il puisse s'impliquer pour que la paix revienne à Kinshasa et que tous les citoyens circulent et s'expriment librement. Et nous espérons vivement que cet appel va atteindre toutes les couches sociales afin de rétablir l'unité nationale reflétée à Kinshasa.
Merci beaucoup, Monsieur Joseph Nkinzo.
Merci beaucoup, Madame.